Je suppose que vous rentrerez toutes à l'école normale l'année prochaine.
Non, moi je rentrerai chez moi.
Comment vous appelez-vous ?
Claudine.
Un été avec Colette.
J'ai beaucoup entendu parler de vous.
J'avoue que mon instruction n'a pas dépassé l'école primaire. Vous n'allez pas me mépriser, j'espère bien que non.
Par Antoine Compagnon, L'Occupation.
Le 18 avril 1941, Colette parle à la radio de son roman « Julie de Carnayan » qui vient de paraître, et de l'Exode.
« Chère Colette, vous nous donnez donc à votre tour votre livre d'Exode. »
« L'Exode, oui, c'est le mot propre, mais il a été trop vite adopté, je ne l'aime pas. Le 12 juin, j'étais à la campagne près de Montfort. »«
À Méry ?»«
Oui, à cause de l'avance des forces allemandes, j'ai voulu rentrer à Paris. »«
Vous deviez être à peu près la seule. »«
Non, mais enfin, c'était une idée fixe. »
Et depuis quand avez-vous recouvré votre bonne humeur ?
Oh, depuis mon retour à Paris, dans les premiers jours de septembre. Je suis charmante, je travaille comme je peux, autant que je peux, et je ne demande rien à personne.
Colette, qui n'avait pas la tête politique, publie en 1937 Bella Vista dans Gringoire, l'hebdomadaire d'Horace de Carbuccia, dont les sympathies pour le fascisme sont connues. Elle confie à une amie en septembre 38, en pleine crise des Sudètes, alors que la France a mobilisé avant les accords de Munich.
Que penses-tu de Hitler ? Un monsieur végétarien qui ne mange que des flocons d'avoine à midi et parfois un œuf le soir. Un monsieur qui ne fait pas l'amour, même avec les hommes. Une belle comédienne.
Il est vrai qu'elle s'est toujours méfiée des idées.
Il y a trois parures qui me vont très mal. Les chapeaux empanachés, les idées générales et les boucles d'oreilles.
Affirme-t-elle en 1938. C'est sans arrière-pensée qu'elle passe d'un organe de presse à l'autre et lâche, en juin 1938, le journal pour Paris Soir de Jean Prouveau et qu'elle collabore à Marie Claire et à Match, autre propriété de Prouveau. Indifférence ou inconscience qui peut expliquer certaines imprudences sous l'occupation. Julie de Carnayan paraît durant l'été 1941, de nouveau dans Gringoire, désormais de connivence avec le régime de Vichy. On y tombe sur ce dialogue entre Herbert d'Espivan et Julie, son ancienne femme.
« D'ailleurs, nous allons avoir la guerre. »« Tiens, » dit Julie. Espivan la regarda avec envie. « Mais tu ne doutes même pas que ce serait une guerre terrible, plus que l'autre. » Elle fit un geste d'indifférence. « Je ne raisonne pas sur la guerre. Ce n'est pas l'affaire d'une femme de raisonner sur la guerre. »
Dès son retour de l'Exode, elle donne une chronique hebdomadaire au Petit Parisien pétainiste entre octobre 40 et décembre 41. Elle parle à ses chères femmes, traite des problèmes de la vie quotidienne, le froid, la pénurie, la solitude. Elle donne des conseils pratiques pour survivre, des recettes de pauvres comme celle de la flognarde qui aura un immense succès. Mais la guerre la rattrape. Maurice Goudequet, son mari, est arrêté le 12 décembre 1941 lors de la rafle des notables. Colette réussit à le faire libérer le 6 février 1942, après deux mois d'angoisse, grâce à Madame Otto Abetz et à Karl Epting, le directeur de l'Institut allemand. La judéité de son mari a influencé l'attitude de Colette. Une fois qu'il est libéré, elle donne des gages. Un article dans La Gerbe en novembre 1942 qui la rend collaborationniste aux yeux des lettres françaises. Mais les collaborationnistes n'étaient pas dupes. Qui l'avertissait.
Nous en avons assez de votre littérature de décadence. Nous ne voulons plus de ces Claudines, de ces ingénues libertines. Nous ne voulons plus de ces œuvres frelatées d'autrefois. Tout ça, c'est de l'art juif. Grâce au ciel, la Révolution nationale change tout cela. Vive Pétain !
Colette traversa la Libération sans encombre. Aragon voyait en elle le plus grand écrivain français.
On peut remarquer que dans vos romans, jusqu'ici, nous n'avons pas encore vu un de vos héros se soucier d'autre chose que de lui-même. Jamais une allusion aux événements qui ont ébranlé les 50 années de ce demi-siècle.
Ce sont les choses qui me font peur. Et puis je comprends mal que pour un être humain, la vie ait un sens presque exclusivement politique. Non, je ne suis pas digne de la politique.